Phage démolition a donc démoli ou déconstruit les bâtiments du terrain qu'occupait l'ancienne école, relocalisée à Saclay, une demi-heure de voiture plus au sud, via la 86 et la N118. Il faudrait aller voir. Sauf le gymnase, des arbres et la maison du directeur. Le gymnase, 12 hautes arches élancées en béton à la manière brésilienne, est prévu pour devenir un tiers-lieu. La maison du directeur est l'actuelle maison du projet de l'écoquartier. Elle accueille le public et des promoteurs qui visent au laser rouge sur une maquette du futur le logement à vendre aux potentiels habitants. Seuls les arbres, les herbes, les oiseaux aussi, peut-être pas délogés puisqu'on coupe les arbres après leur envol et avant la nidification. La pipistrelle, à coup sûr, chauve-souris protégée, dévoreuse de moustiques tigres, resteront le symbole vivant de cette Lavallée, à la fois mot nature et nom du fondateur de Centrale en 1829, Alphonse Lavallée. Le nom Centrale a été lui transporté depuis entre les différents emplacements, deux à Paris, un à Châtenay-Malabry et aujourd'hui Saclay. En termes de physique des particules, que reste-t-il du temps des origines, du temps de Gustave Eiffel, qui fut diplômé en 1855? Il serait injuste ici de ne parler que de Gustave Eiffel, quand tant d'étudiants, mais on dit élèves concernant une grande école, prestigieux sont passés ici comme Armand Moisan, lui aussi fan de métal, architecte du bon marché. Édouard Vaillant, socialiste élu de la commune qui survécut à Jaurès en le trahissant. William, le baron Génet, architecte du premier gratte-ciel. René Panhard, fabricant d'automobiles équipé de moteurs Daimler à essence. Julien Binda, philosophe contre les ismes et leurs traîtres. Louis Blériot, pilote traversant. Boris Vian, poète et parolier, chanteur et trompettiste. Gérard Chamaillou, dit Félix, sculpteur de la géode de la Villette et dont la pensée créatrice trône toujours à l'entrée de l'école déménagée de Châtenay à Saclay, inoxydable. Antoine, chanteur aux cheveux longs et voyageur. Étienne Klein, physicien anagrammeur et radiogénique. Amina Douman, informaticienne de la preuve. Mais revenons à Gustave Eiffel, parce qu'il nous faut une star et parce qu'il nous en reste quelque chose au cœur de ces 20 hectares. Un devoir. Un plan de Gustave Eiffel est encadré à la maison du projet. Devoir de l'élève daté de 1852 et rendu par conséquent à Paris, dans l'hôtel Salé du Marais, aujourd'hui Musée National Picasso Paris, tout change, quand l'école était encore privée. Le devoir est intitulé, manuscrit en lettres capitales d'imprimerie, École Centrale des Arts et Manufactures. Sous-titré par son contenu, projet de chauffage. Le dessin représente un mur de grosses briques, surmonté à droite d'une cheminée conique faite des mêmes briques. Sur le mur est écrit, dans la même écriture technique, la chaudière est derrière le mur. Avis et signature du professeur, zéro. Document, zéro pointé, authentifié. On raconte qu'il fut retrouvé dans les archives de l'école au moment du déménagement à Saclay, par hasard, glissant littéralement d'un carton jusqu'au sol, cherchant la lumière de la conversation. Gustave Eiffel avait échoué à l'oral d'admission à Polytechnique la même année, cela s'annonçait donc mal. Pourtant, il fut diplômé de Centrale en 1855 et 2 ans plus tard dirigea la construction de la passerelle Saint-Jean de Bordeaux. Directeur du chantier à l'âge de 26 ans, un chantier difficile dont il se tira à merveille sur le terrain piégeux du large fleuve, typologie qu'il retrouvera à Paris pour sa tour. Le plan de la chaudière dissimulée aurait pu disparaître, alors qu'il s'agit d'une de ses meilleures réalisations. Humour, simplicité, subversion et confiance en soi, solidité de l'édifice malgré sa discrétion, il a tout de même résisté à l'oubli et la disparition. L'oubli. Il fait partie du projet municipal, lutter contre le nom de Paris, ignorer la mémoire que les riverains pourraient avoir de l'école, regarder le futur et le futur seul, construire par-dessus le passé en le recouvrant, transformer le patronyme du fondateur de l'école en mot passe-partout qui peut se lire comme une vallée près du parc de Sceaux et de la Coulée Verte, baptiser une place centrale qui ne dit pas non plus vraiment le nom de l'école, à moins de préciser sur la plaque de rue ce qu'il en fut, mais la plaque n'existe pas pour le moment. Alors, qu'en sera-t-il? Pourquoi un tel acharnement à l'oubli? Paradoxal quand tout le projet urbaniste de recyclage mis en place contredit cette méthode. Le recyclage devrait également porter sur les mots, sur les noms, bâtir avec de la mémoire, que l'on puisse circuler parmi les particules et les mots. Imaginez les noms et les vies réelles ou réinventées des milliers d'étudiants passés ici, des professeurs. Faire du lieu et de ces vies un mythe d'où parte le présent. Puis l'oubli viendrait de lui-même, de la vie construite alors, ayant lentement remplacé les mots du passé par de nouveaux mots, par un processus vivant, collectif, survenu, émergent, non planifié. Un jour, au village, un effondrement de terrain mit à jour un hôpital de guerre, fait de briques de la région, révélant un long couloir et quelques salles. Un hôpital allemand, en l'occurrence, datant probablement de la Grande Guerre comme on l'a appris plus tard. Pan oublié d'une histoire connue, les briques de ce tunnel étaient enterrées sous l'impasse menant au cimetière, au bord des champs là où quelques obus oubliés aux ogives empoisonnées d'arsenic remontaient parfois au beau milieu de la Somme, évoquant la bataille du même nom. Effondrement de terrain commun ici, les trous d'impact dans les jardins apparaissaient parfois, faisant s'effondrer la terre sur un cercle parfait, surprenant bien souvent au petit matin. Comme ce jour où le TGV, reliant Valenciennes à Paris quelques mois après l'ouverture de la ligne, dérailla, sans se renverser, au point kilométrique 110,5, longeant un village voisin et l'éternelle autoroute 1. Les vibrations ajoutées aux récentes pluies avaient réveillé une ancienne tranchée. Pourquoi un tel TGV ici et pas ailleurs? Pourquoi exactement entre deux chefs-lieux et pas dans l'un ou l'autre? Une décision politique difficile à prendre, ralentissant le chantier, délai et surcoût, dont il ne sera pas question ici, avait coupé la poire en deux et placé la gare des betteraves entre les deux clochers, partageant les distances d'accès. Quant aux briques, les mêmes que la maison, que toutes les maisons au village, sauf les maisons neuves, aux parpaings recouverts de crépi, faisant apparaître la notion de goût pour juger une maison, et, sauf les maisons bourgeoises, il y en avait deux, dont le château en pierre de taille. Briques de terre cuite, comme on en trouvait dans une briqueterie abandonnée, à quelques kilomètres, le long d'un chemin de terre reliant deux routes, chemin d'accès aux champs et aux bois contre lequel elle était effondrée, sa cheminée brisée au sol au milieu des amas de briques de ses anciens murs. Car la briqueterie était curieusement faite de briques, et nous allions en récupérer, pour des besoins ponctuels du jardin, marquer, caler, délimiter, soutenir, au milieu des orties, des ronces et du lierre qui recouvraient partiellement le trésor éparpillé, faisant taire les chants d'oiseaux aux mouvements furtifs dans les taillis. Et combien de briques emportées aux quatre coins du pays plat, dispersées comme des comètes. Aller à cet endroit ou simplement passer à vélo à côté au cours du promenade, c'était aussi réveiller les termes de la brique, la couleur de la région. Terre, argile, terracotta, extraction, mélange, dégraissage, alcali, moulage, rebattage, laminage, empileur, four Hoffmann à 1200 degrés Celsius, les jours de cuisson, la couleur de chaque brique selon sa position dans le four, le charbon qu'il fallait, la fumée noire qui s'élevait.